Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagio, des allegro, des moderato et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique Nico, toujours vaillant. Je vous propose aujourd'hui de commencer cette émission par un peu de musique baroque et par un peu de Vivaldi.
En ce moment, j'écoute Vivaldi, puis je joue l'ukulélé.
Alors non, ce ne sera pas du Vivaldi au ukulélé. Ce serait original, j'en conviens et j'aime l'originalité. J'ai choisi ce qui était le moins lointain possible du ukulélé, le luth. Nous allons écouter un concerto pour luth, deux violons et continuo en ré majeur. Le premier mouvement de ce concerto, en tout cas, c'est le Julian Bream Consort qui joue ce concerto du Vivaldi.
Thank you. voilà ce qu'il y a de meilleur au monde.
Avoir un bon copain. Les compositeurs ne sont pas seuls au monde. Ils ont parfois des collègues qui sont un peu plus que des collègues et qui partagent le mystère de la création. Avoir un bon copain, les compagnonnages de l'histoire de la musique. Alors si vous avez écouté l'émission d'il y a 15 jours... Je vous avais laissé dans les années 1770 avec cette rencontre entre Mozart et Haydn. Haydn qui est en train de donner un ton nouveau au quatuor et Mozart qui essaye de l'imiter. On va avancer un tout petit peu dans le temps, 10 ans, les années 1780, mais rester avec ces deux compositeurs-là, Haydn et Mozart. Les années 80, les choses sont en train de changer. Le quatuor est vraiment quelque chose qui s'impose, y compris aux oreilles du public. C'est pas un hasard, par exemple, que le premier quatuor professionnel d'interprète hein, qui décide de faire des tournées en tant que quatuor se met en place en 1782. Et bien évidemment, c'est aussi à ce moment-là donc que les compositeurs vont explorer encore plus ce genre-là. Alors pour Haydn, il est resté quasiment 10 ans sans composer de quatuor, et dans ces années 80, il se remet à en composer davantage. Faut dire d'ailleurs que dans les années 80, Haydn compose énormément. Il se peut que cette frénésie créatrice soit liée à une histoire d'amour avec une chanteuse, Luigia Polzelli. Voilà, ça c'est les petites histoires de la musique, on ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'il compose beaucoup et en 1781, il publie les 6 quatuors de l'opus 33, qu'on appelle parfois les quatuors russes parce qu'ils sont dédiés au grand-duc Paul Petrovitch. Haydn dit lui-même que ses quatuors sont des quatuors dans un style entièrement neuf et original. Alors c'est pas seulement une formule publicitaire, c'est vraiment un autre style. On avait vu que dans l'opus 20, il utilisait la fugue, il utilisait des héritages qui venaient clairement de la musique baroque. Là, il va chercher plus de simplicité, lié certainement d'ailleurs aux nombreux opéras qu'il avait composés, et donc au style de l'opéra bouffa, un style très très vivant. Simplicité, ça ne veut pas dire banalité. Haydn va toujours s'attacher à partir d'un thème, de tirer toutes les conséquences possibles d'un thème, de le transformer de plein de façons différentes, et finalement, sous cette apparence de simplicité, une musique extrêmement savante. Je propose d'écouter le premier mouvement du Quatuor opus 33, numéro 6, en ré majeur. Il sera interprété ici par le quatuor Mosaïque. Après Haydn, on retrouve Mozart, toujours dans ses années 80, et ici plus particulièrement en 82. Il y a quelque chose qui est assez caractéristique dans ces années pour Mozart, c'est que ce sont vraiment des années de crise, de recherche. Quelque chose le montre de façon assez évidente quand on regarde les manuscrits de Mozart. Avant les années 80-81, les manuscrits sont toujours impeccables, sans aucune rature, comme si c'était facile. À partir de 82, Mozart hésite davantage, il rature davantage, il revient plus souvent sur ses œuvres. Pourquoi ? Évidemment, il n'a pas moins de capacité qu'avant, au contraire, il a une expérience beaucoup plus riche, mais Mozart a découvert pas mal de choses. Il a découvert d'abord la musique de Bach. Il faut se le rappeler, c'est pas si évident. Pendant très longtemps, on a joué que de la musique contemporaine. Et Mozart découvre presque par hasard la musique de Bach, parce que à Vienne, il y a le bibliothécaire impérial, Van Swieten, qui est fou de cette musique de Bach et qui fournit à Mozart toutes les partitions. C'est évidemment une révélation pour Mozart. Et puis il y a Haydn. Et ces quatuors de l'opus 33, dont on a écouté un exemple tout à l'heure, vont vraiment bouleverser Mozart, qui va lui aussi essayer de changer un peu son écriture de quatuor. Et donc les quatuors de 82, ils sont tout simplement dédiés à Haydn. Ça aussi c'est un changement. On ne dédie plus un quatuor à un noble qui donne un petit coup de main financier de temps en temps, mais on le dédie à celui qui les a réellement inspirés. On va écouter un exemple assez caractéristique, qui est le deuxième des quatuors dédiés à Haydn, celui qui est en ré mineur, le Köchel 421. C'est probablement l'une des œuvres les plus sombres de Mozart, qui a été composée dans des circonstances très particulières, puisque ce quatuor aurait été composé en une nuit, la nuit du 17 au 18 juin 1782, une nuit un peu particulière, puisque c'était la nuit où la femme de Mozart, Constance, accouchait de son premier enfant. Bien évidemment, il y a un peu de légende dans cette affaire-là, de toute façon c'est à peu près impossible de composer en une nuit autant de musique, sauf que Mozart avait cette capacité de composer mentalement, et seulement après de réécrire très très vite tout ce qu'il avait imaginé dans sa tête. On écoute donc le premier mouvement de ce quatuor en ré mineur Köchel 421, interprété par le quatuor Hagen.
Thank you. Mozart. J'aurais bien aimé le connaître.
Putain, et moi, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de te rencontrer, c'était mon seul pote.
Je l'invitais à Becquet, tiens. Ça, ça aurait été chouette. L'emmener à la campagne. Tu devais aimer ça, la campagne.
Mais bien sûr, il aimait tout. Il n'était pas chiant.
On lui aurait filé la môme. On lui dit, tiens, Wolfgang, elle est à toi. Solange s'appelle. Cadeau d'admirateur.
Il en aurait fait une sonate.
C'était donc le Quatuor Köchel 421, le premier mouvement de ce Quatuor, interprété par le Quatuor Hagen, suivi de quelques mots écrits par Bertrand Blier et dit par Depardieu et Devers dans le film Préparez vos mouchoirs, où le où Mozart tient un rôle tout à fait essentiel.
Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, Nicolas.
Les compositeurs aussi ont des patrons et les chefs-d'œuvre que nous chérissons sont souvent le résultat de commandes. Avec Merci Patron, ouvrons donc ce feuilleton consacré aux grandes commandes de l'histoire de la musique.
Allez tous ensemble, hein. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Ouais. Merci patron,
merci patron,
merci patron. Ce que vous faites ici-bas, Nicolas vous le rendra. Allez papa.
Merci patron, les grandes commandes qui ont rythmé l'histoire de la musique. Il y a 15 jours, on était en France avec une commande du ministère de la Culture. Il s'est passé à peu près l'équivalent en 1923 en Hongrie, où le gouvernement, voulant célébrer le cinquantenaire de l'union de Bouddha et de Pest pour devenir Budapest, a demandé à plusieurs compositeurs des pièces pour célébrer ça. Il y avait notamment Kodály qui avait été sollicité. Mais le compositeur le plus connu, c'est évidemment Bartók. Bartók qui est un petit peu l'emblème de la musique hongroise. Là où Bartók est assez génial, c'est que quand il répond à cette commande, il n'en fait pas une œuvre expressément nationaliste où on entend que de la musique populaire hongroise, même si Bartók la connaît parfaitement bien. Encore une fois, Bartók, il a été l'un des premiers ethnomusicologues à parcourir la campagne avec du papier à musique dans une main et le crayon dans l'autre pour noter toute cette musique populaire. Donc, il connaît ça par cœur, mais d'emblée, il voit beaucoup plus large. Il va utiliser des musiques populaires hongroises, mais aussi des musiques populaires arabes ou des musiques populaires d'ailleurs dans les Balkans, pour composer une suite de danses tout à fait palpitante. Je propose d'écouter les trois premières danses de cette suite de danses, le Moderato, l'Allegro Molto et l'Allegro Vivace. C'est Georg Solti qui dirige le London Symphony Orchestra.
Thank you.
On va rester quelques minutes encore avec Bartók, parce que cette musique, elle est d'une grande beauté, elle est d'une grande richesse, elle est très très vivante. Ces aspects de musique populaire, quelque part transcendés par la musique savante, on les retrouve aussi dans le concerto pour piano, dans le deuxième concerto pour piano, qui date des années 30-31. Et vous allez voir cette incroyable vie rythmique du final de ce deuxième concerto. J'ai choisi là aussi des musiciens hongrois, en tout cas le pianiste, c'est Geza Handa qui va jouer ce concerto. Il sera accompagné par Ferenc Frinchai qui dirige le Berlin Radio Symphonic Orchestra.
Thank you.
Je vous disais tout à l'heure que Bartók était probablement le premier ethnomusicologue important. C'est amusant de voir que certains musiciens traditionnels, finalement, ont fait le cheminement inverse, sont repartis de la musique de Bartók et l'ont réinterprété avec les instruments de la musique traditionnelle. C'est par exemple le Taraf de Haïdouk qui a fait ce travail-là en reprenant les danses roumaines de Bartók. Je vous propose d'écouter un ostinato de ces danses roumaines interprétées par le Taraf de Haïdouk.
Quel rythme là-dedans, on dirait du rock.
Thank you.
s'éloigner de Bartok pour terminer ce numéro de Tutti Quanti. Alors, si tout marche bien avec ce qu'on va écouter maintenant, vous devriez pouvoir siffloter ça pendant au moins toute la soirée après. On va écouter un peu de Rossini après tout, hein, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini. Un petit peu de Rossini, donc c'est un extrait de l'acte 1 de la Cenerentola. C'est un air extrêmement connu, extrêmement virtuose, extrêmement enlevé, le Non più mesta. On va retrouver une très très grande cantatrice, une grande spécialiste de ce répertoire de Rossini, Cecilia Bartoli. Elle est accompagnée par l'orchestre du théâtre de Bologne que dirige Riccardo Chailly. C'est donc avec le Non più mesta tiré de la Cenerentola que se termine ce numéro de Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner.